France Inter.
C'est comme pour un acteur, c'est la personnalité. Ta présence.
Vous répondrez non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule les ténèbres. Ok ?
Ça peut couler, hein.
On en parle tout.
Allez, action !
Ce qui sera encore mieux, c'est de rien dire.
Deux écrivaines, l'une en France, l'autre en Italie, et surtout deux esprits libres ce matin. Bonjour tout le monde, et salut Laurent.
Mais bonjour Christine, bienvenue à tous.
Imprévisible, anarchiste, féministe, elle s'appelait Goliarda Sapienza, écrivaine italienne jamais publiée de son vivant. C'est Valeria Golino qui l'incarne dans ce film Fuori de Mario Martone. Nous avons rencontré Valeria Golino, née pour ce rôle. Le film est sorti mercredi. Elle met des mots nouveaux sur l'amour filial et ses limites. C'était un livre de Constance Debray, c'est devenu un film. Love Me Tender, le vôtre. Bonjour Anna Cazenave-Cambet.
Bonjour.
Oui, une autre façon d'être mère, en refusant de transiger sur l'écriture ou la relation avec d'autres femmes pour obtenir la garde de son fils. Clémence, c'est Vicky Creeps. Elle apparaît plus tard dans le film. Mais quelle présence! Bonjour Monia Chokri.
Bonjour.
Québécoise et presque une actrice française. 5 films dans notre hexagone cette année. Vous êtes Sarah dans Love Me Tender qui fait entrer Clémence dans sa vie, mais pas forcément le contraire. Votre film Anna sort mercredi prochain. Enfin, une nouvelle semaine de cinéma. De Dites-lui que je l'aime à Mektoub My Love, Canto Doué. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Quelle donne alle Bibbie stanno dentro anche quando stanno fuori. Così, quando siamo insieme, mi sento dentro anch'io. Libera. Come ti chiami? Goliarda Sapienza.
Goliarda Sapienza, l'auteur italienne du livre L'art de la joie, une œuvre maudite publiée après sa mort en 98 et best-seller mondial depuis. Son héroïne Modesta, une femme qui traverse le 20e siècle de son enfance misérable à l'apprentissage de la liberté. Le cinéaste italien Mario Martone raconte son auteur Goliarda dans ce film Fuori. C'est Valeria Golino qui l'incarne. On y retrouve l'écrivaine à sa sortie de prison qui retrouve ses compagnes de geôle. Film crépusculaire, antibiopique, ensorcelant, dans une Rome post-année de plomb et habitée par cette actrice magnifique, Valeria Golino, reconnue mondialement en 2002 avec Respiro d'Emmanuel Crialese, plus une grande filmo italienne, mais aussi une carrière américaine, Rain Man, Leaving Las Vegas, The Indian Runner, entre autres. La voici à Paris, courte escale et portrait.
C'est qui per politica?
Io Roberto.
Ladra. Notte gioielli, storie di vita.
Quanto hai scritto?
Quel libro sono io. Me lo rifiutavano prima, figuriamoci adesso.
Elle était beaucoup de choses, Goliarda Sapienza. Elle était douce, elle était ouverte, elle n'avait pas de préjugés, mais elle était aussi furieuse, elle était pauvre, elle avait peur. Les gens sont très compliqués. Tous, on est tous beaucoup de choses très complexes. Là, dans Fuori, on a choisi de raconter ces moments de la vie de Goliarda Sapienza. Mm. Alors, ce n'est pas tout la Goliarda, c'est cette Goliarda de ce moment, comme une espèce de présent, de son présent, et où elle était en prison parce qu'elle avait volé. Et c'est un rôle presque invisible.
Oui.
Où il fallait pas être, mais recevoir.
Moi, je trouve c'est un film fascinant.
Mais mélancolique.
Hypnotisant, mais très mélancolique.
Je suis d'accord avec toi. C'est vital et mélancolique en même temps. Il y a une espèce de réaction dans la mélancolie. Parce que la base, c'est une Italie qui vient après les années de Piombo.
Oui.
Avec des femmes qui devaient vivre, qui devaient être. Alors, une espèce de vitalité, mais sur un tapis des malinconies.
Est-ce que l'Italie a des comptes à rendre avec elle, finalement, ou pas?
Moi, je pense que maintenant, tous aiment Goliarda.
Oui.
Et on trouve pas, on n'a pas le sens de la culpabilité sur
non.
elle, non. Mais ça arrive avec beaucoup de choses, pas avec elle.
Mais c'est arrivé tard, ces livres en Italie, plus tard qu'en France.
Si, plus tard qu'en France. Plus tard qu'en Allemagne,
oui.
plus tard qu'en France, oui, enfin elle arrivait chez nous.
Mario Martin, il dit que c'était très joli, il dit que c'était Jenna Rollins ou Valeria. j'imagine que ouais. Ça vous va, Jenna Rollins. Mais c'est drôle, moi je refais un tour en arrière avec votre filmographie, le côté libre, insoumise, indomptable, on la retrouvait dans Respiro.
C'est sûr. Et la chose étrange, parce que vous me faites cette question, que quand je fais Fuori, oui. Mario Martone, avant la première le premier jour de tournage, il a pris toute l'équipe et il nous a fait voir Gloria, oui, de Casavetes avec Gina Rollins. Et les jours avant, mais sans le savoir les deux réalisateurs, hein, que moi j'ai fait Respiro avec Emanuele Crialese, que c'était une femme dans une île du sud de l'Europe, complètement, un très beau film, je pense.
Oui, magnifique.
Pas pour me vanter, mais
non.
J'étais dans un très beau film, que c'est Emanuele Crialese. Il m'a fait voir Woman Under the Influence.
Incroyable, avec
c'était
Gina
Casavetes
Rollins.
Avec Gina Rollins. C'est, et tous les deux réalisateurs, hein, et ces deux personnages totalement différents, et tous mes reports vers elle.
C'est marrant parce que Respiro, ça a donné une tonalité à votre carrière.
Oui, c'est vrai.
On vous a beaucoup
une définition,
associé.
Comme une espèce de définition. De
exactement.
Mots.
Comme si vous deviez vous tenir à ça, que ce rôle était hyper fort, en fait, non?
Oui.
Et il a marqué toute une carrière.
Oui, là, tout de suite, quand je fais Respiro, j'avais déjà travaillé depuis 18 ans. J'avais 35 ans. J'avais fait déjà peut-être 60 films. J'étais déjà quelqu'un, un acteur, une actrice. Mais c'est comme si ces petits films, petits films italiens,
oui,
m'a donné plus de personnalité sur mon jeu, dans la perception des autres, hein,
oui,
que tout le reste que j'avais fait.
Justement, Goliarda, elle n'a pas été publiée de son vivant. Une actrice, elle va être reconnue de son vivant, justement. Ce qui n'est pas pareil. Est-ce que vous voulez garder comme actrice des images qui resteront?
Écoute, qu'est-ce que tu penses? Tous les acteurs voudraient rester dans la mémoire des autres.
Ouais.
C'est peut-être dans notre intime, mais c'est un peu prétentieux à le dire. C'est ça qu'on veut. On veut que quelques images de nous restera beaucoup après nous.
Et Hollywood dans tout ça, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Mais comment ils vous prenaient? Vous étiez cette actrice d'auteur Respiro, et vous arrivez et vous faites des trucs très grand public.
J'avais toujours une ambivalence, mais ça c'est à moi. Ça n'a rien à voir avec comme ils étaient. C'est moi que j'avais une ambivalence entre être ici et faire Respiro, ou être là et faire James Cameron. Et cette ambivalence, c'est jamais sa porte quelque part. Pour avoir une carrière brillante, il faut avoir pas de doutes.
Oui.
Et moi, j'ai que des doutes dans la vie. C'est déjà un miracle que je suis là à vous parler. Non, j'ai des doutes, surtout. J'ai travaillé là et en même temps, je voudrais être là et ça, non, je ne suis pas sûre. C'est toujours, pendant qu'on n'a pas de doutes, je connais des gens qu'ils n'ont pas, qu'ils sont, certes, ils ont la certitude de ce qu'ils pensent.
Comme Tom Cruise que vous avez raconté sur Redman, par exemple.
Certitude. Et aussi beaucoup d'autres gens avec beaucoup de succès. Ils n'ont pas de doutes. Et c'est une force. Mais moi, pour moi, le doute, il est roi. Il est mon roi.
On a l'impression d'avoir vu une nouvelle Valeria Golino.
C'est vrai.
Mais oui, parce que c'est des rôles qu'on n'a pas l'habitude de vous voir prendre. Justement, c'était
c'est la nouvelle Valeria de la troisième partie. Tu vois, maintenant, ça commence une autre chose. C'est
oui,
de mon âge, que c'est différent qu'avant. Aussi, voilà.
Sans la séduction.
Sans la séduction. Mais attendez, hein. Dans la vie, je continue à séduire le plus possible. Non, ça, je rigole.
Mais si, pourquoi
non,
pas.
Mais moi, je suis séductrice.
Oui.
C'est ma nature de nous. Et séductrice, ça ne veut pas dire sexuellement séductrice. Séductrice même de ses fauteuils. Je veux qu'elle m'aime. Je veux que... Voilà, la bouteille, la rose, tout m'aime. Ça, c'est ma nature.
Et nous, vous voulez qu'on vous aime?
Beaucoup.
Oui.
Et je pense, ah oui, que vous sentez que je vous aime aussi. Je vais surtout faire sentir l'amour.
Hommes et femmes.
Et les données. Hommes et femmes partout, si. Alors ça, c'est ma nature. Bien sûr, les
séductrices... C'est votre force, ça, c'est votre force.
Ma force et ma fragilité. Parce que les séducteurs, les plus que vieillissent, les moins séduisent. Tu comprends? Et pendant que toi séduis, tu te retrouves à faire plus de fatigue, tu vois.
C'est pour ça que vous avez séduit les Américains.
Un peu, oui, un peu.
Mais oui.
Aussi, je pense vraiment que j'avais pas... Et je vais pas être insolente. J'avais pas rien à foutre, vraiment. J'avais pas les rêves américains. J'étais contente d'être là. J'étais intéressée d'être là. Mais j'étais pas là à dire « Je dois faire une carrière absolument indivine. » Vraiment. Mais c'était le présent. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas. Et la séduction faisait partie de ça, comme toujours. Comme toujours. Et alors, mes rôles, en tout cas, maintenant je suis une actrice d'un certain âge, ça fait moins partie des rôles que je peux prendre.
Mais vous n'en êtes pas servi de ça dans vos rôles?
Non. Même quand j'étais vraiment... J'aurais pu.
Oui.
Et je ne me suis pas servi.
Vraiment?
Si, j'étais toujours plus séduisante dans la vie que dans mes rôles. Moi, je suis sûre de ça.
Que ça doit être?
Désenlever tout.
Oui.
Non, mais c'est presque naturellement. J'ai toujours choisi des rôles où la séduction, oui, quelquefois j'ai dû faire la séduction. Mais la séduction, que dans la vie c'était ma copine de vie, je ne l'ai pas tellement utilisée
dans
mes rôles.
Mais c'est la définition d'une actrice, de toute façon.
Voilà. Moi aussi.
Ben oui.
Moi je le pense.
Sûrement.
C'est comme ça.
Vous savez ce que disait Robert Mitchum? Il disait, une actrice, c'est plus qu'une femme. Et un acteur,
c'est moins qu'un homme. Et aussi, Robert Mitchum disait, there are no actors, there is only actresses.
Il n'y a pas d'acteurs, il n'y a que des actrices.
Robert Mitchum, il avait un peu raison.
Oui.
Hein?
Valéria Golino à l'affiche de Fourie sur nos écrans depuis mercredi. Mounia Choukri, la séduction.
Ah ben, tu dois être heureuse parce que moi je l'aime en tout cas.
Ouais.
Ouais, et je la trouve très séduisante. Et en fait, ce qui est beau, c'est que là, je trouve que elle parle de vieillir et tout, mais en fait, elle a tellement de bagages, tellement d'humour, tellement de profondeur qu'en fait, être séduisant, c'est aussi, ça passe essentiellement par ça aussi.
C'est la première actrice qui me dit qu'elle a envie de rester dans la mémoire. Vous voyez qu'elle,
ouais.
C'est
parce que les autres n'osent pas le dire. Moi,
exactement, exactement.
Bah oui, je pense que n'importe quel artiste a envie de rester dans l'image. En fait, on crée pour contrer la mort aussi. Donc c'est un rapport au besoin d'immortalité que de créer.
Exact.
C'est l'extension ou la procréation. Ouais, voilà, c'est l'extension de la procréation en fait.
Maintenant on va vers Love Me Tender.
Lui c'est mon ex, mon premier amant et jusqu'à nouvel ordre le dernier. On est même encore mariés puisqu'on n'a pas divorcé. Lui et moi, ça a duré 20 ans. Je l'ai quitté 3 ans auparavant. Il s'appelle Laurent. Pour notre fils de 8 ans, pour Paul, on fait une semaine sur deux, à l'amiable. Il n'y a jamais de problème. Depuis quelques mois, je suis passée aux filles. C'est ce que je voulais dire. C'est l'objet du dîner.
Une fin d'été, la vie de Clémence, Vicky Krieps, va basculer lorsque, après avoir annoncé à son ex-mari qu'elle avait des histoires d'amour avec des femmes, il va lui faire retirer la garde de leur fils. Love Me Tender, votre film, Anna Cazenave-Campbell, adapté à votre façon, donc le livre de Constance Debray. Pourquoi faire un film? Peut-être parce qu'il n'existait pas, ce film.
Oui, en tout cas, ce personnage n'existait pas, je crois. C'est drôle d'avoir ouvert l'émission en écoutant cette actrice qui parle de ses désirs, en fait, de son âge et de ses désirs et de son envie de séduire et de sa force pour le dire aussi. Moi, le personnage de Clémence, c'est un personnage que j'avais encore jamais rencontré. C'est un personnage qui me permettait de dire, de raconter toutes ces femmes qui, à un moment de leur vie, ont envie de réécrire l'histoire et du prix à payer pour ça.
Et raconté par une fille de leur génération.
Oui.
Ce que vous n'aviez jamais vu avant, une femme qui fonce sur un tabou de la mauvaise mère.
Ouais, une femme qui avance, en fait, hein, qui avance. Cette histoire de mauvaise mère, c'est quelque chose qui me poursuit, je pense, depuis mes études. On m'avait vraiment prévenue sur ce sujet en me disant qu'il fallait vraiment pas écrire de mauvaise mère.
Ah bon ?
Je pense que plus largement, il faut vraiment jamais écrire de mauvaise femme. Enfin, c'est une espèce de fixette, peut-être, d'un vieux monde. Moi, quand j'ai commencé à écrire Clémence, je l'aimais déjà. Je pense que l'amour, c'est marrant, on va parler de ça beaucoup, mais l'amour, c'est au centre de mon travail et de mon rapport et aux personnages et aux comédiens, aux comédiennes. Et Clémence, non seulement je la comprenais, mais je l'aimais très tôt. Et c'est après, c'est quand il a été question de financer le film, c'est là qu'on m'a mise face à cette histoire de mauvaise mère, alors que je ne pense pas qu'elle soit une mauvaise mère, et globalement de toutes ces questions morales qu'on venait à poser sur mon personnage.
D'ailleurs, vous vous dites faire des films qui ne sont pas hétérocentrés, c'est prendre le risque d'être moins bien financé. Vous avez dû avoir de drôles de remarques, non ?
Oui, on a eu de drôles de remarques, mais c'est quelque chose qui en fait... Avant même de parler d'homophobie, il y a quelque chose en fait à l'endroit des cinéastes femmes. Moi, je le vois là sur ce parcours de sortie du film. On me parle sans cesse du fait que je suis une femme réalisatrice. On me parle du fait que mon film touche à des questions queer. C'est plus rare en fait qu'on parle du film pour ce qu'il est. C'est-à-dire, moi, je suis cinéaste. J'ai fait des études comme tout un tas de cinéastes. J'ai fait des courts-métrages avant de faire mes films. Et aujourd'hui, je fais des films.
Ce qu'il faut faire accepter au public, c'est quelle que soit sa sexualité, le problème est là, quoi. Le problème de la mauvaise mère est là. Quelle que soit sa façon d'aimer les hommes ou les femmes.
Oui, mais par ailleurs, en fait, le film a ça de réussi, je crois. En tout cas, c'est ce que je vis, moi, dans les rencontres aux spectateurs. C'est-à-dire que c'est un film qui a plusieurs portes d'entrée. Mmh. C'est un film qui parle de famille, en fait. Avant de parler de personnages féminins ou de relations romantiques. C'est un film qui vient questionner qu'est-ce que c'est la famille aujourd'hui. Je crois qu'on est encore un peu campé sur des positions qui datent d'un autre siècle. Mais quand je regarde autour de moi, et si on se regarde tous... Nos familles sont toutes différentes et complexes et enfin voilà, à géométrie variable. C'est un film qui vient parler de ça et il parle pour ça à des gens qui ont les parents divorcés et qui ont grandi au travers du divorce de leurs parents, mais aux femmes célibataires avec leurs enfants, aux pères qui ont vécu un divorce compliqué. Je crois qu'on est tous et toutes en mesure de s'identifier à un endroit du film, en tout cas.
C'est pas forcément son ex-mari qui est homophobe, c'est la société qui lui renvoie cette idée-là aussi, non ?
Oui, puis je pense que, enfin, en fait, je pense que l'ex-mari, il utilise l'homophobie comme un levier.
C'est ça.
Parce que c'est un levier bien, bien utile, bien, bien pratique, bien facile. Ce qui lui arrive à lui, je crois, c'est une perte d'identité. En tout cas, c'est une vexation au départ. Et on sait que les vexations, chez certaines personnes et chez certains hommes, ça peut être terrible. Oui, c'est ça, une blessure d'orgueil.
Ouais.
Ouais.
Vous aussi, Monia, vous interrogez la société dans vos films, ce que vous avez réalisé. Vous dites que le Québec est en avance sur la France. Donc
oui,
pour
je l'affirme.
Pour ce qui est du féminisme.
Oui.
Et pareil, pour le sujet du film, même chose ?
Pour le sujet, non, en fait, moi j'ai été quand même très bouleversée parce que je suis pas sûre que je l'ai vu moi non plus ce film, même au Québec. Après, nous, c'est vrai qu'il y a des questions qui sont un peu plus digérées, je pense, sur l'égalité homme-femme,
ouais.
sur la parité, sur le rapport à la communauté queer. Enfin, je pense qu'il y a des choses qui. Mais on est quand même aussi influencé par un recul des valeurs aussi, comme un peu partout dans le monde. Hein. Il y a aussi des
oui,
voix qui s'élèvent au Québec.
Oui,
bien sûr. Après, moi, ça m'a vraiment bouleversée. Moi, j'ai été vraiment au-delà de si elle est gay, si elle est pas gay, machin, nanana. J'ai même pas d'enfant. Sauf que ce qui m'a plu énormément, ce sur quoi je me suis identifiée, c'est vraiment son rapport à la liberté, c'est de choisir une vie justement où alors moi, le fait de pas avoir d'enfant me ramène à elle sur le fait que je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant, je suis pas en couple et j'ai choisi aussi un métier d'homme, donc en tout cas traditionnellement d'homme, qui est le cinéma, d'être réalisatrice. Et donc toutes ces questions-là me ramènent aussi aux sacrifices qui me permettent la liberté. Et moi, ça m'a vraiment scié, en fait, quand j'ai lu et quand j'ai vu le film.
Elle paraît froide et détachée, mais il n'y a pas de pathos, parce que le film, Anna, refuse les plaintes, en fait.
Oui, mais je pense pas non plus qu'elle soit froide et détachée.
Non, c'est l'image qu'on pourrait avoir, mais on découvre autre chose d'elle.
En choisissant Vicky Cripps, de toute façon, c'est difficile qu'elle soit froide et détachée.
Oui, oui, ça c'est sûr.
Mais c'est vrai que c'est important par rapport au roman, quand même, le choix de Vicky Cripps.
Ouais, ce qui était important pour moi, c'est qu'on puisse comprendre ce qu'elle traverse. De manière non verbale, en fait. Parce que c'est un personnage qui parle assez peu, finalement, qui écrit, l'écriture se fait le relais de ses émotions. Mais aussi, c'est un personnage, qui est doté d'une grande discipline, qui a une forme de structure, comme ça, et de solidité.
Et qui a compartimenté sa vie. Non, mais c'est vrai. Entre
par nécessité.
L'écriture, la nage, et le fils, justement.
Oui, ce qui est sûr, c'est qu'il y a l'enfant d'un côté
et les femmes.
Et sa vie de l'autre. Ouais. Mais ça, elle y est bien obligée. C'est aussi ce qui lui permet de tenir.
Elle est extrêmement, quand même, patiente par rapport à tout ce qui lui arrive. Ce prénom n'est pas un hasard, Clément.
C'est sûr, c'est pas un hasard. Mais plus que la patience, j'aurais tendance à dire qu'elle est intelligente.
Oui.
Qu'elle fait preuve d'intelligence. Parce qu'en fait, elle comprend tout de suite ce qui est en marche en face d'elle. Elle connaît les rouages de cette machine-là.
Ils sont très longs, hein. C'est long, la machine judiciaire. Ça, c'est une longueur incroyable.
Ouais,
c'est bien rendu dans le film aussi.
Bah, d'ailleurs, vous avez tourné à différentes saisons, non?
Oui, on a eu un tournage assez long, parce que je tenais comme ça à ce qu'on ressente de manière sensuelle, en fait, le passage des saisons. C'est quelque chose d'important pour moi dans mon cinéma, mais là, plus encore, je voulais que ça résonne chez les spectateurs. Qu'est-ce que c'est passer un Noël puis deux et qu'est-ce que ça veut dire à l'endroit de l'enfance, quoi.
On va l'écouter quand elle tente de joindre son fils au téléphone.
Ouais.
Allô?
T'as vu l'heure qu'il est?
Salut, Laurent. Tu peux me passer Paul, s'il te plaît?
Bah, il est en train de se préparer pour aller à l'école.
Tu peux me le passer, s'il te plaît?
Attends. Paul, c'est maman. Tu lui parles rapidement avant qu'on décolle. Il veut pas te parler.
C'est un enfant. Tu me le passes?
Okay, comme tu veux, comme tu veux.
Allô? Paul? Mon cœur? Je sais que t'es en colère contre moi, mais je sais pas pourquoi. Alors je te propose qu'on aille boire un coca et tu m'expliques. D'accord? Tu veux bien?
Clémence, je t'ai dit, il ne veut pas te parler.
Mais enfin! Il a 8 ans. Depuis quand il décide?
Mais d'accord, toi tu sais comment on élève un enfant correctement peut-être.
Pardon?
Non, laisse tomber. Je te laisse, on va à l'école.
Anna Cazenave-Campbell, vous disiez, elle est intelligente, mais aussi elle est d'une grande droiture. En fait, cette femme a été avocate, donc c'est vrai qu'elle est mieux préparée que d'autres femmes victimes de la perte de la garde de leur enfant.
Oui, elle est armée même face à ça. Moi, je tenais en fait aussi à raconter, ce personnage me l'offrait, mais c'était important aussi pour moi de raconter une autre façon de faire face au drame à l'endroit du personnage féminin au cinéma. C'est-à-dire, on s'attend à ce qu'elle pleure plus, à ce qu'elle crie plus, à ce qu'elle... Parfois même, on a pu me le dire sur l'écriture, quoi, mais pourquoi elle se bat plus? En fait, elle se bat tout du long, hein. C'est quand même un film qui déploie l'histoire d'une femme qui se bat, mais avec intelligence et aussi avec une forme de pudeur. Et ça, c'est quelque chose qui, à l'endroit du personnage féminin, moi, m'intéressait beaucoup.
Et elle va rencontrer cette Sarah, c'est vous, Monia Chokri, qui a un chignon à la Bergman, mais je dirais presque à la Simone de Beauvoir aussi.
Oui.
Cette femme, elle va laisser, je le disais au début, elle va laisser entrer Clémence dans sa vie. C'est une vraie histoire d'amour, ça.
C'est une vraie histoire d'amour et c'est, encore une fois, c'est une histoire de délicatesse aussi. Il y a énormément de pudeur aussi dans cette histoire et c'est ce que j'ai aimé aussi, comment traiter. Effectivement, quand elle parle d'un personnage féminin qui serait pas dans une espèce de bouffée d'émotions et que non, tout passe par la subtilité et c'était... moi, j'ai été bouleversée par ce personnage, par ce scénario, par la rencontre avec Anna aussi, comment elle nous amenait avec
sa
force tranquille.
Force tranquille.
Qu'elle a une force tranquille. Ouais, parce qu'en fait, elle a une rondeur, une manière délicate et bienveillante de nous amener à jouer ces personnages et toute l'intime aussi qu'on a à jouer quand même.
Vous êtes comme ça, vous, quand vous dirigez ?
En tout cas, je sais qu'il y a une chose qui est importante pour moi et j'en parle souvent, c'est la bienveillance et le respect. Donc, ça fait partie des raisons pourquoi je choisis d'aller chez certains cinéastes ou de ne pas aller chez d'autres. Et c'est important pour moi, au-delà même d'un très bon scénario ou des partenaires, c'est vraiment qui va être avec moi, qui je vais côtoyer. La vie est trop courte pour côtoyer des gens chiants et désagréables.
Je suis d'accord. Cette Sarah va tomber amoureuse et va vouloir entrer un peu plus dans la vie de Clémence.
Alors, je savais pas que tu venais, mais je pense que ça te ferait du bien. Elle est toujours dedans ? Oui, Laurent a toujours du retard. Il préfère, pour pas qu'on se voit. Bon. Allez, on y va ? J'avais juste envie de le voir. Mais là, tu me fous dans la merde ! Ça va, pas besoin de mal me parler. J'ai juste dit que j'aimerais voir Paul. C'est très, très étrange pour moi de pas le connaître. Je sais même pas quoi te dire. Je pense que ça t'arrange, en fait, tout ce truc de Paul médiation. T'as pas forcément envie de me le présenter. Je pense que dans la vie normale, tu me le présenterais pas, en fait.
Quoi ? Tu te rends compte de ce que t'es en train de dire ? Et si Laurent, il te voit ? Hein ? La vie normale, mais c'est quoi la vie normale ? Ça, c'est ma vie à moi ! Et ça fait 2 ans que je lutte pour voir mon enfant ! Paul, c'est ma limite. Et si tu dépasses, tu dégages.
Personne ne me parle comme ça, Clémence. Même pas toi.
Est-ce qu'une scène comme ça, Anna Cazenave-Campbell, est-ce que ça existait dans le livre ou c'est vous qui l'avez imaginé, celle-là ?
Aujourd'hui, c'est difficile pour moi de répondre à ces questions parce que c'est une telle fusion, en fait. Adapter un livre, on l'ingère comme ça, au bout d'un moment, il devient une partie de nous. Mais pour cette scène, précisément, il y avait quelque chose de cet ordre-là, oui, de ce moment qui est un risque pour Clémence parce que, justement, il y a une effusion de sentiments à la sortie de cet endroit où elle peut rencontrer son enfant. Oui, c'est parti du livre. Et après, on est venu travailler avec Monia et avec Vicky sur ce moment-là qui, effectivement, est très différent du reste de la relation. Ce que Monia apporte au film et son personnage, c'est vraiment littéralement de la lumière. Elles ont comme ça ensemble un temps qui est un temps de l'espoir qu'on appelait au montage avec Joris Lakitan, le monteur, l'été des possibles. Et c'est un moment dans le film qui devient plus léger, plus doux, plus adolescent aussi. On a beaucoup ri en fabriquant leur histoire à toutes les deux. Alors cet extrait le raconte moins, mais disons qu'elles ont un temps comme ça qui est un temps assez idyllique. Et en effet, dans leur relation, dans leur façon de coexister, elles ont un immense respect l'une pour l'autre.
Même la rencontre est très romantique.
Ouais, quoi. Alors ça a été un moment de joie inouïe sur le plateau pour moi, parce qu'on tourne des choses qui sont relativement dures par ailleurs. Et ce moment de toutes les trois ensemble à fabriquer, c'est un plan séquence, c'est un moment où on prend vraiment du temps pour que... Mais on prend du temps parce que moi j'ai vu que c'était possible avec ces comédiennes, c'est-à-dire que je leur ai laissé du temps pour se déployer et se rencontrer.
T'es DJ.
Quoi ?
Je sais pas.
De quoi ? Mais j'ai l'air de DJ, moi.
Je sais pas, avec ta dégaine, t'es pas DJ ?
Non.
Mais t'es pas banquière, a priori ?
Aucun respect. Non, et... Bon, il te reste un essai.
Bah non, banquière, ça comptait pas.
Bah si, ça comptait.
Bah non.
Bah si.
T'es prof de sport.
Donne-moi ton téléphone.
T'es gonflé, hein?
Oui. Merci. Et toi, t'es journaliste.
Comment tu sais?
Qu'est-ce que je gagne?
Je crois que t'as assez gagné comme ça aujourd'hui.
Le reste est dans le film. Est-on obligé de continuer à aimer son enfant éternellement, y compris quand on ne le voit plus? C'est une question centrale. du film et de la vie.
Oui, c'est une question à laquelle moi, en tant que personne, je ne peux pas répondre, mais en tant que cinéaste, c'était intéressant pour moi de la poser, cette question. Quand je lis le livre pour la première fois, j'ai un tout petit enfant, et je me souviens très nettement d'être comme ça, en tant qu'artiste, en tant qu'autrice, et puis en tant que femme qui jusque-là menait sa vie à peu près comme elle l'entendait. Je me retrouve assujettie à une sorte de grand guide qui a l'air d'aller avec la maternité, mais qu'on ne reçoit pas pour autant à la maternité. Donc il y a comme ça un paradoxe. Et dans ce guide-là, il y aurait toutes les questions taboues qu'on ne doit surtout jamais se poser, mais même qu'on ne doit pas même s'autoriser à penser. Et quand j'ai lu le livre, je sais que moi j'ai eu un soulagement. Alors oui, c'est une lecture qui est difficile par moments. Mais le fait d'entendre une voix, une nouvelle voix, quoi, de femme qui puisse se dire, en fait, d'où ça sort ce truc de l'amour filial et de tout ce qu'on a construit autour. Je pense que c'est libérateur, et le film fait ça.
D'ailleurs, Monia Chokri, c'est important d'avoir des rôles modèles au cinéma pour toutes les jeunes filles maintenant.
Bien sûr, mais évidemment. Ouais. De toute façon, le cinéma, pour moi, c'est vraiment un endroit où on peut faire un éveil de conscience, on peut réfléchir et on peut le faire de manière très subtile aussi. On n'est pas obligé de mettre de l'avant des idées. Ça peut être, par exemple, dans le film de Nathan Briosiani, Les enfants vont bien. Ouais. Ben, on a un personnage qui travaille, qui est enceinte. Et voilà, pour moi, c'est subtil, mais ça veut dire, ok, on peut des représentations de femmes enceintes qu'on avait dans Fargo, mais c'est assez rare de voir une femme enceinte au cinéma qui travaille, ouais, par exemple. Donc c'est des choses subtiles qui permettent aussi de dire, ah ben il y a de créer de la liberté, d'espace de liberté pour les femmes.
Et enfin, dernière question, vous avez eu la confiance absolue de Constance Debray. Est-ce qu'elle a vu le film ?
Elle l'a pas encore vu. Enfin, je crois pas.
C'est ce qu'elle dit.
Mais c'est ok. Enfin, moi,
c'est pas grave.
Non, c'est pas grave du tout. On est tout à fait d'accord sur le fait qu'elle fait absolument.
Ce sont maintenant deux objets distincts.
De exactement. Et puis je comprends, quoi. Ouais.
Love Me Tender sort mercredi prochain. Vous restez avec nous, Monia Chokri, Anna Cazenave-Cambet. On va retrouver une belle chanson italienne, Quando, de Andrea Laszlo et Simone, avant de parler des sorties.
È colpa del respiro, fragile come me, se soffro tanto ma son vivo. È colpa della bocca, stupida come me, e del tuo corpo che la tocca. È colpa dell'istinto agile come me, che corre sempre dritto al punto. È colpa dell'amore ruvido come me, se ormai non voglio più morire.
Inter. On aura tout vu,
Christine Masson et Laurent Delmas.
Et si on commençait par ce film tourné en 2018, Mektoub My Love, Canto Doué, dernier épisode d'une trilogie, donc Laurent signé Abdelatif Kechi, Chamine revient à Sète après ses études à Paris, rêvant toujours de cinéma. Un producteur américain en vacances s'intéresse par hasard à son projet et veut que sa femme, Jess, en soit l'héroïne. Mais le destin capricieux impose ses propres règles. Et toujours la lumière, la grâce, la sensualité et toujours d'incroyables moments de vie captés, Laurent.
Oui, ce qui est passionnant d'abord, c'est que Kechiche ne se contente pas de faire un second ou un troisième volet, si on inclut Intermezzo,
oui.
Là, son chant 2 est beaucoup plus mélancolique. Alors, par exemple, dans le premier, on assistait à la naissance d'une brebis, ou la mise à bas d'une brebis. Là, il se trouve qu'on voit des agneaux morts. Je ne veux pas faire trop d'analyse, mais enfin, c'est assez, ça dit quand même pas mal de choses, ce raccourci-là. Et il n'hésite pas non plus à renouer avec la lecture sociale qu'on trouve par exemple dans La vie d'Adèle, hein, ici avec la rencontre entre des Américains et la bande de copains de Seth. Mais ce qui est absolument étrange, fascinant et réussi, c'est que ce film, si crépusculaire par ailleurs, est aussi très drôle, très vivifiant. Et c'est en fait la force de Kechiche qui sait à la fois se renouveler tout en restant dans son arbre généalogique. C'est tellement bien qu'on aimerait qu'il y ait un canto très.
Reprise en même temps du premier film de Kechiche, La faute à Voltaire, oui. Laurent, avec Samuel Bouajila, Oratica et Elodie Bouchèze. Les enfants vont bien, de Nathan Ambrosini. Il a 26 ans et c'est son troisième film qui sort au cinéma après Les drapeaux de papier et Tony en famille. Un soir d'été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Jeanne, c'est donc Camille Cotin, et Suzanne, c'est Juliette Armanet. Elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois, mais surtout, Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère jusqu'à la gendarmerie. Jeanne comprend qu'aucune procédure de recherche ne pourra être engagée. Suzanne a fait le choix de disparaître. Entre tension et émotion, sincère et tendre, à la fois et ce défi, rendre un personnage présent par son absence, suggéré plutôt qu'exprimé. Et ce casting si juste, Laurent, Camille Cotin, Juliette Armanet, vous, Monia Chokri, et les deux enfants.
Oui, alors encore une mère, serait-on tenté de dire. Hein. Alors c'est vrai qu'elles sont nombreuses en ce moment, et pas seulement sur le grand écran, parce que dans les librairies, ça pullule aussi. Mais bon, mais en fait ici, ça serait plutôt d'ailleurs une non-mère, une femme qui ne veut pas être mère, comme d'ailleurs l'était Valéria Brunetti-Leschi dans L'attachement, oui. Le très très beau film, oui. De Karine Tardieu. Et comme Tardieu, le réalisateur ne cède ni au pathos, ni au suspense facile pour décrire cette situation, certes très singulière. C'est à la fois étonnant et admirable de retenue et de maîtrise. L'évolution du personnage de Cotin se fait avec une délicatesse infinie et on se dit que ça fait du bien, comme toujours, la complexité.
Ça vous a fait du bien, vous, ce film ?
Ça m'a fait du bien, je le trouve très très beau et je trouve vraiment les enfants extraordinaires dans le film.
Dites-lui que je l'aime, de Romane Boringer, qui a adapté le livre de Clémentine Autain consacré à sa mère, c'était l'actrice Dominique Lafin. Ce projet va l'obliger à se confronter à son passé et à sa propre mère, encore, qu'il a abandonnée quand elle avait 9 mois. Témoignage intime mêlant doc et fiction sur le mal de mère. Cherchez à comprendre plutôt qu'accuser, Laurent.
Oui, alors on ne peut pas contester la sincérité de la démarche documentaire et fictionnée de l'autofiction de Romane Boringer, hein, entre une sorte de mentir vrai et une enquête familiale. On ne lui en veut pas non plus que ça parte un peu dans tous les sens et que l'émotion prenne souvent le pas sur le reste. Mais il faut quand même ajouter que l'ensemble devient à la longue assez lourd et singulièrement parce que c'est pas effectivement une mère dont il est question, mais deux, dont celle donc par ailleurs de Clémentine Autain. Était-ce vraiment une bonne idée que de vouloir absolument mêler les deux voix, les deux histoires, les deux destins dans une sorte de compassion entremêlée ? Moi, je n'en suis pas certain.
Que ma volonté soit faite, de Julia Kowalski, la jeune Nawoshka qui vit avec son père et ses frères dans la ferme familiale, cache un terrible secret, un pouvoir monstrueux qu'elle pense hériter de sa défunte mère, s'éveille chaque fois qu'elle éprouve du désir. Lorsque Sandra, une femme libre et sulfureuse, originaire du coin, revient au village, elle est fascinée et ses pouvoirs se manifestent sans qu'elle ne puisse plus rien contrôler.
Alors c'est une drôle d'impression parce qu'on a le sentiment que la réalisatrice veut mêler les codes absolument machistes et patriarcaux du giallo habituel, ouais, hein, tel qu'on le connaît, avec un discours féministe absolument actuel et revendiqué et assumé. C'est presque le mariage de la carpe et du lapin. Hein. Et pourquoi pas ? Ben pourquoi pas ? Parce que le cinéma permet tout. Et ben moi je trouve que le pari est à la fois audacieux et excitant. Il n'est pas forcément réussi jusqu'au bout tant le film se fait parfois caricatural, mais avec son image en 16 mm et son esthétique radicale, ben le film, je crois, parvient à se tenir droit et à nous interpeller.
Ridland, un premier film d'une Irlandaise, Sven Bresser. Donc aux Pays-Bas, lorsqu'il découvre le corps sans vie d'une jeune fille sur ses terres, Johan, fermier solitaire, est submergé par un étrange sentiment. Alors qu'il s'occupe de sa petite fille, il se lance à la recherche de la vérité, mais le mal se cache parfois derrière les apparences les plus ordinaires. Un film contemplatif, philosophique. Le récit est un récit sur les non-dits, Laurent.
Oui, on avait découvert ce film à Cannes cette année, ce premier long métrage. Oui. Alors, un assassinat, une économie locale toxique, des paysans pollueurs, un vieux fermier silencieux. Tout ça, ça fait un peu cliché, film d'atmosphère, où tout est fait pour engendrer le malaise. Mais au fond, au bout, ben, ça fonctionne. Tout ça est vrai, mais c'est souvent réussi, avec une sorte de mélange de froideur, de terreur et de burlesque. C'est aussi ce mélange qui fait la réussite du film.
Cabo Negro, deuxième film de l'écrivain réalisateur Abdella Taïa. Deux jeunes de Casablanca arrivent dans une luxueuse villa de la station balnéaire de Cabo Negro, louée par l'amant de Jafar, un riche américain, qui est censé les rejoindre plus tard, mais il ne les rejoindra pas. C'est un film solaire sur une jeunesse LGBT au Maroc.
Oui, alors il faut accepter que le film se repose sur des moments de vie minimalistes dans une maison froide, désertée, où l'amour ne circule pas. Le réalisateur a un sens évident du cadre, une façon de tout filmer et de tout raconter à bas bruit, en privilégiant le hors-champ pour évoquer ce qui serait le plus dur, notamment la prostitution et l'immigration. Malgré cette réserve permanente, cette façon de ne pas y toucher, le film parvient absolument à émouvoir, comme un bel éloge, on va dire, de la frugalité.
Ça s'appelle Cabo Negro.
Oui.
Bardo d'Alain Berliner et Elora Thévenet. Un regard sur le mythe, un énième regard sur l'actrice mythique et son combat pour la cause animale, rien de nouveau sous le soleil de Bardot.
Oui, c'est vrai que c'est le déroulé chronologique d'une vie où le cinéma compte finalement assez peu, hein, d'un strict point de vue artistique, pour un Godard sublime, Le Mépris, Combien de nanars, façon Babette s'en va en guerre, ou autre Collineau trouche-chemise. Mais ça, Bardot l'a toujours dit et répété, elle a parfaitement assumé que cette carrière, bah, c'était pas quand même la plus grande du monde. Elle l'a d'ailleurs arrêtée elle-même en plein vol. Alors, le doc, en revanche, ne cache pas les zones d'ombre qui font que Bardot quand même a été plusieurs fois condamné pour incitation à la haine raciale ou pour des écrits jugés racistes. Alors on se dit que pour une fois, si on sépare la femme de l'artiste, on préférera quand même l'artiste.
Donc voilà, ça c'est dit. Maintenant, deux festivals, l'Afrique fait son cinéma.
Oui, l'Afrique fait son cinéma, 7e édition du 10 au 20 décembre à Paris. 7e édition de ce festival international du film et de l'art africain et caribéen. C'est dit, il y a 65 films en compétition autour de ce continent. C'est-à-dire, c'est dire si c'est intéressant, parce qu'on n'est pas envahi par les films africains en général.
Non.
Donc c'est bien d'aller voir ce qui se passe.
Les arcs,
la neige du 13.
Très installé ce festival.
Installé, bien ouais. Entendu, du 13 au 20 décembre 2025. La promesse, c'est le meilleur du cinéma européen, s'il vous plaît. Belle promesse, et tenue en général. 80 films présentés, 40 courts-métrages, avec notamment des invités d'honneur, Isabelle Adjani et Daniel Brühl, Tariq Saleh, un focus sur la Grèce. Bref, on pourra ne pas aller skier, mais aller au cinéma.
Avec beaucoup de professionnels et beaucoup de rencontres, et des gens qui pitchent leur sujet. Monia, vous êtes déjà allé aux Arcs?
Bah, je serai jury.
Voilà,
ouais, comme elle est partout.
Et un bon festival.
Parce que votre film n'est pas encore en tournage, donc vous avez
tout
le temps en décembre.
Ce sera au mois d'août, j'espère.
Et maintenant, on a un petit peu de temps pour les deux cadeaux, Laurent.
C'est bien. Anna Cazenave-Cambet, on vous a choisi un classique qui s'appelle La Nuit du Chasseur. premier et seul film de Charles Laughton. Mais quel film, c'est un coup d'essai et c'est un coup absolument de maître, avec le Robert Mitchum dont nous parliez tout à l'heure, Valérie Golino. Ouais. C'est une édition collector, 4K Blu-ray, chez Wildside, et il y a notamment un documentaire de plus de 2 heures sur le tournage du film par Laughton lui-même, donc c'est absolument saisissant. Si on n'a jamais vu La Nuit du Chasseur, c'est pas possible, il faut le voir tout de suite, ouais. Et si on, et on le revoit avec un bonheur absolu à chaque fois.
Et c'est le seul film qu'il a réalisé.
Fascinant.
C'est, ça, c'est ça qui est beau dans l'histoire.
Ouais.
Non
ouais, ouais. Et le DVD est magnifique.
Ouais. C'est un film fascinant. Il est en métal, vous avez vu ?
C'est magnifique.
Voilà, oui, très belle édition, hein, pour une édition collector, c'est beau. Monia Chokri, je ne sais pas si vous avez vu cette année le film de Christian Petzold qui s'appelle Miroir numéro 3.
Non.
Et qui est moins un de mes films coup de cœur de,
ah bon
de l'année.
Ouais.
Ah ben, on est heureux de vous l'offrir. Alors, c'est chez Blackout. Et franchement, le cinéma de Petzold est souvent très très sensible. Là, je trouve qu'il atteint un très beau degré avec deux actrices sublimes, Paula Baer et Barbara Auer, deux femmes dans une maison et avec des passés qui décidément ne passent pas.
Merci.
Voilà, donc vous êtes toutes les deux, j'allais dire à l'affiche, non Monia, vous êtes, Chokri, vous êtes à l'affiche de Love Me Tender, et des enfants vont
et
bien,
des enfants, oui.
Love Me Tender, réalisé par Anna Cazenave-Cambet, le film sort mercredi prochain, merci beaucoup à toutes les deux.
Merci à toutes les deux.
Merci à Romain Lukiens, merci à notre équipe Valérie Aestaray à la réalisation, Benjamin Ducy à la préparation, Olivier Rioux à la programmation musicale et aux manettes ce matin, Théo de Lobadère. Merci, au revoir.
C'était On aura tout vu sur France Inter.